Rebonjour, je vous laisse le temps de vous asseoir doucement. Avant de, comme me le disait Christine à l'instant, avant de partir à l'aventure, puisque nous allons, voilà, Biblio 2057, c'était le titre de ces deux jours, et voilà, ça y est, on y est. Donc on va rentrer, nous voilà de plein pied dans le futur. Et je vais bien sûr revenir un petit peu sur quelques explications à propos de ces deux jours. Et en fait, j'hésite un petit peu parce que grâce à notre ami Reinhard Mittassen, hier, j'ai complètement changé mon intro. Il m'a rappelé que 1977, c'était non seulement, bien entendu, l'inauguration du centre, c'était l'inauguration de la BPI. C'est 80 ans avant 2057, mais c'était également l'année de No Future. Pour ceux qui se rappellent, c'est une chanson des Sex Pistols. En fait, c'est le début pratiquement du mouvement punk. Et en 1977, on nous annonçait qu'il n'y avait pas d'avenir. Voilà, et je pense que c'était intéressant de le rappeler. Je n'ai pas répondu à l'exhortation d'Anne Verneuil hier. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, je ne vais pas vous le chanter. Mais si vous insistez, je peux essayer. Non! Merci. Donc, pour redevenir un petit peu sérieux quelques secondes, donc pourquoi 2057 bien sûr, le plus évident, c'est 2017 plus 40 ans. Et pourquoi l'idée, c'est bien entendu, comme on l'a écrit, c'est de se projeter à une échelle qui ne nous est pas familière. On ne travaille pas à 50 ans. Nos projets, c'est de l'ordre de 5-10 ans. On a bien vu hier, par exemple, et ce matin, que les projets d'ouverture d'Oslo, de Québec, c'est 2020-2021. Bon, c'est des fois des projets qui ont également déjà plusieurs années, mais pour faire vite, on sait qu'un projet de construction important, c'est 10 ans. Entre les premières idées, la décision et puis l'ouverture, ça prend au moins 10 ans. Je peux vous en citer, compris plus longtemps. Je peux vous en citer aussi, compris moins longtemps, dont le plus gros, auquel j'ai participé et dont je suis fier, mais c'est la BNF, qui, entre 89 et l'ouverture, enfin l'inauguration en 95, a permis de construire en 6 ans, 250 000 m². Donc à peu près 10 BMVR. Et ça donne un peu la puissance, à un moment donné, de la volonté politique quand elle s'exprime et quand elle porte un projet. C'était une parenthèse non prévue. Donc se projeter au-delà de nos échelles habituelles de travail, et également au-delà du prévisible. Tout ce que j'ai demandé à Xavier Delaporte et à nos neuf pitchers, il ne s'agit absolument pas de prévoir à quoi ressemblera 2057, à quoi ressembleront les bibliothèques, le monde de la culture, l'accès aux informations, l'accès aux œuvres, l'accès à la connaissance en 2057. On n'en sait rien. Et personne ne reviendra de 2057 pour vous dire « Vous vous êtes trompé en 2017 ». Donc l'exercice n'est pas celui-là. C'est pour ça que également, je pense que le meilleur vecteur, peut-être, c'était de passer par la fiction, au moins de faire travailler l'imagination et de se lancer carrément sur ces pistes-là. Bien entendu, il s'agit quand même de faire un exercice utile, entre guillemets, mais qui s'appuie sur des tendances des fils à tirer en fait actuels qu'on peut choisir pour savoir en fait si on pousse quelque chose à bout, à quoi ça aboutit dans 40 ans. Donc c'est un peu cet exercice-là que en fait, je ne connais pas tous les pitchs, j'en ai vu que la moitié, et j'espère qu'ils ont respecté la consigne. Je voulais faire un petit peu de publicité également pour un site qui est ArchéoSF. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais où j'ai relevé des passages intéressants. Notamment un passage qui remonte à 1907, qui a été publié dans le journal de l'Algérie et de la Tunisie le 10 janvier 1907, et qui parle du journal téléphoné sans fil. Je vous lis quelques lignes. L'utopie d'hier n'est-elle pas le rêve d'aujourd'hui et la réalité de demain ? Nous ne pouvons résister au plaisir de citer cette amusante présentation du journal de l'avenir, le journal téléphone sans fil. Demain, la téléphonie n'aura plus de fil comme déjà la télégraphie s'en est débarrassée. Alors, nous assisterons à une nouvelle transformation du livre, le livre avec une capitale dans le texte. La plus déconcertante de toutes, peut-être, laissant loin derrière elle la publication de journaux et de dépêches comme on trouve à bord des paquebots, et telles que viennent l'imaginer les grandes compagnies transatlantiques. Les agences Havas, Reuter, Wolf deviendront des centres permanents d'émissions d'ondes sonores, chronométrées chacune à des longueurs différentes, de manière à empêcher toute interférence. Ce qui cause aujourd'hui le désespoir du technicien fera alors sa joie, la possibilité de recueillir les ondes à tous les points de la sphère d'action, tandis qu'actuellement l'on voudrait pouvoir les concentrer et les diriger sur un seul point, tournera à l'avantage d'un mode universel de transmission des informations. Chacun portera sur soi, dans son gousset, le gousset est important, un tout petit cornet qu'il accordera d'un tour de vis à l'intensité d'onde adoptée par chaque centre émetteur. Par exemple, à 125, il se mettra en communication avec l'agence Havas, à 142 avec l'agence Reuter. Le Parlement français sera sur 222. Et le cours donné par Virchow dans sa chaire de Berlin sera désormais devant l'auditoire mondial, pourvu que celui-ci ait réglé son cornet sur 425. Bon, je pense que je ne vais pas le commenter longuement. Vous comprenez bien l'intérêt de ce passage et de ce type d'exercice, finalement. C'est à ça que je voulais le démontrer. Et en fait, on retrouve ici, sur cette gravure, une illustration de ce que je viens de lire. Donc, je répète, ce site ArchéoSF, je vous le recommande tout à fait. En effet, moi-même étant ou ayant été un grand lecteur de SF, je sais bien que ce qui frappe en fait dans la SF, c'est pas tellement la prévision. Ce n'est pas tellement de savoir si tel et tel auteur a prévu quelque chose que l'on voit maintenant. Et ce qui est intéressant, je pense, et c'est pour ça que c'est intéressant cet après-midi d'avoir plusieurs points de vue et extrêmement différents, c'est la masse, en fait. C'est-à-dire de lire, de se nourrir de beaucoup d'hypothèses différentes qui correspondent en fait à l'ouverture des futurs possibles. Voilà. Donc je vais finir là et appeler Xavier Delaporte à la table. Essayer de retrouver sa biographie.
Bonjour, vous avez terminé ?
Je sais.
Vous aviez dit 2 minutes. Ça a duré 8.
C'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais la faire vite, courte.
Non, mais c'était passionnant.
Vous êtes journaliste, Vous êtes intervenu pendant longtemps sur France Culture. Je crois que vous intervenez encore, d'ailleurs.
Non.
Non, c'est terminé depuis le mois de juillet, c'est ça ?
Oui.
Vous interveniez le matin pour une chronique tous les matins de 3 minutes sur le numérique, sous un point de vue un petit peu décalé. Et c'est à ce titre-là que j'ai eu envie de vous inviter cet après-midi. Et en ce moment, vous êtes passé sur Radio Nova, c'est ça, où vous intervenez tous les vendredis ?
Tous les jours.
Tous les jours. Bon, j'ai tout faux et je vous laisse la parole.
Mais c'est pas grave puisqu'on fait de la prospective qui n'a pas besoin d'être juste. Donc, d'abord, bonjour à tous. Un petit préambule, on m'a demandé de vous parler pendant une heure de ce que seront les bibliothèques en 2057. Alors, comme j'ai décidé de suivre très scrupuleusement ces instructions et donc de vous parler des bibliothèques depuis 2057, parce que n'étant ni bibliothécaire ni futurologue, j'ai, vous l'imaginez, une idée assez précise de tout ça, je vous annonce d'emblée que je ne parlerai pas pendant une heure. En effet, en 2057, plus personne ne s'adresse seul à une assemblée qui non seulement est plus compétente que lui, mais en plus vient de déjeuner, ce qui vous permet néanmoins d'être d'ores et déjà rassuré sur un point. En 2057, on continuera de déjeuner. Donc je vous détends tout de suite, d'ici une trentaine de minutes, vous pourrez vous vouer à des activités plus sérieuses que d'écouter une lecture comme celle-ci, un peu ennuyeuse. Alors pourquoi ennuyeuse ? Parce que j'ai décidé de ne pas vous imposer un délire futuriste abstrait, mais de vous faire la lecture d'un règlement intérieur d'une bibliothèque en 2057. La personne qui m'a soufflé cette idée est présente dans cette salle, mais je tairai son nom pour que vous ne la lynchiez pas dans une demi-heure. Alors, règlement intérieur à l'usage des bibliothèques des régions unies d'Europe. Alors, juste, je me permets une première parenthèse pour expliquer que puisque nous sommes en 2057, le cadre politique général a un peu changé. Suite à un vaste mouvement indépendantiste qui a touché l'Europe ces dernières décennies, et on date d'ailleurs le vrai début de ce mouvement à l'indépendance de la Catalogne espagnole à la fin de l'année 2017, l'Union européenne s'est transformée en une vaste fédération de régions autonomes, les États étant réduits à un rôle assez folklorique. On nota la résistance désespérée du président français Emmanuel Macron à ce processus. Il dut céder après avoir organisé un référendum demandant au peuple français de lui donner le titre d'empereur. Référendum qu'il perdit et qui entraîna la France dans ce mouvement décentralisateur et autonomiste qui touchait donc l'ensemble de l'Europe. Néanmoins, cette balkanisation territoriale n'empêche pas la nouvelle structure suprarégionale, baptisée donc les Régions Unies d'Europe, de poursuivre une ambition normalisatrice de sa prédécesseur, et donc d'édicter des règles censées être valables depuis l'Algarve, sud-ouest du Portugal, jusqu'à la Transnistrie aux confins de la Moldavie, puisque la Transnistrie, son existence a enfin été reconnue et elle a été intégrée à l'Europe, aux grandes dames de la Russie, mais je suis certain que ces considérations géopolitiques ne vous passionnent pas. Donc, ce qui m'oblige néanmoins à une deuxième parenthèse. Alors, vous allez sans doute avoir l'impression que certaines de ces parenthèses visant à éclairer un peu l'état du monde en 2057 nous éloignent du cœur de notre sujet. En fait, elles obéissent à une conviction. Ce que sont les bibliothèques et les documents qu'elles contiennent, la manière dont on consulte ces documents, les raisons pour lesquelles on les consulte, ne sont pas séparables de cet état du monde plus général. Et il faut aussi bien prendre en considération l'état géopolitique que les changements les plus matériels qui ont affecté nos vies pour comprendre ce qui est arrivé aux documents, quelle que soit sa forme. Ainsi, il est désormais établi que la disparition définitive du magazine papier et donc des hebdomadaires est due à la généralisation dans les foyers des toilettes verticales. Donc, règlement intérieur à l'usage des bibliothèques des régions unies d'Europe. 1. Consultation sur place. Petit a. L'accès et la consultation sur place des documents sont ouverts à tous, gratuitement, par défaut, voire point 1c. Alors juste une première parenthèse pour m'excuser donc du style très administratif de cette communication. Bien des choses ont changé en 2057, je vous l'ai dit, mais pas le vocabulaire et la syntaxe administrative. Je préférerais bien sûr vous expliquer tout ça dans un style très fleuri, évocateur et tout, mais c'est pas possible. Donc je reprends le point 1A, hein. Donc c'est consultation sur place. L'accès et la consultation sur place des documents sont ouverts à tous, gratuitement par défaut, et ne nécessitent pas d'inscription. En revanche, contrairement à tout autre lieu public à vocation culturelle, il ne sera procédé à l'intérieur des bibliothèques à aucun enregistrement des données individuelles des usagers, qui se limite à la consultation des documents, ni leur identité, ni le rythme de la fréquentation, ni les documents consultés, ni les passages lus ou vus à l'intérieur des documents, ni les conversations tenues dans l'enceinte. Alors là, il faut que je refasse une parenthèse. Pour vous préciser donc que cette exception fait suite à un mouvement du personnel des bibliothèques qui a été très violemment réprimé. Il y a eu des dizaines de morts, particulièrement à la BPI. Mouvement qui s'élevait contre la généralisation dans les bibliothèques de technologies et de procédures auparavant introduites dans les cinémas, les théâtres et autres salles de spectacle. Ces technologies et procédures calquées sur le modèle de Netflix, c'est une entreprise dont le succès remonte au milieu des années 2010. Donc, visait ces technologies donc, et procédures à en savoir le plus possible sur les usagers des bibliothèques à des fins de recommandation. Mais, suite à la découverte par un jeune ingénieur système de la Bibliothèque régionale d'Île-de-France, anciennement Bibliothèque nationale de France, que ces données étaient aussi consultées par les services de renseignement dans une visée de lutte contre le terrorisme, les bibliothécaires européens obtinrent, au péril de leur vie, je le rappelle, une exception enviée. Ainsi, les bibliothèques sont-elles aujourd'hui les seuls espaces culturels que l'on peut fréquenter de manière anonyme. Contrairement au cinéma, au théâtre, aux salles de concert, mais aussi à la plupart des lieux publics, elles sont donc dépourvues de caméras, de senseurs et de capteurs de données personnelles. Par ailleurs, elles sont équipées de brouilleurs qui évitent la géolocalisation des êtres vivants y pénétrant, qu'ils soient humains ou non humains, et qui pourraient être le fait des outils numériques qu'ils transportent et des puces sous-cutanées. On considère que la fréquence en croissance des bibliothèques résulte en partie de cette exception. Ce qui m'amène à une seconde parenthèse, pardon de les multiplier, mais vraiment j'ai peur que si je m'en tiens à la lecture brute de ce règlement des bibliothèques intérieures, enfin règlement intérieur des bibliothèques des régions unies d'Europe en 2057, sans autre précision, vous soyez un peu perdus. Or, il s'agit de votre avenir. Hein. Et les progrès de la technologie médicale ayant fait en sorte que, bien que pour la plupart d'entre vous, vous soyez déjà kakoshim aujourd'hui, il est fort probable que vous soyez encore assez vivace pour travailler en 2057. Et dans la nécessité de le faire suite à la suppression de la retraite, je pense qu'il est tout à fait nécessaire d'être précis. Donc, seconde parenthèse, cette exceptionnalité d'anonymat des bibliothèques, obtenue de haute lutte, je le rappelle, a induit des conséquences architecturales. Pour la plupart des bâtiments publics et privés, la transparence des façades et des cloisons est devenue la norme obligatoire au cours des dernières décennies. L'objectif est double, à la fois répondre aux présupposés de la lutte antiterroriste qui considère que tout ce qui n'est pas montrable est suspect, et ensuite obéir au dogme du protestantisme qui, comme l'avait prédit avec une clairvoyance qui lui valut d'être nommé prophète en 2040, Régis Debray donc, obéit au dogme du protestantisme qui veut que chacun puisse être vu tout le temps. Les bâtiments accueillant les bibliothèques ont suivi la marche exactement inverse. Ils se sont, au fur et à mesure du temps, opacifiés, comme une traduction architecturale de l'exceptionnalité susmentionnée. Non seulement la bibliothèque est désormais un lieu qui s'isole du reste de la ville, mais à l'intérieur même du bâtiment, tout est fait pour que les personnes qui s'y rendent, humains ou non humains, puissent s'isoler des autres lecteurs afin de limiter les effets d'une surveillance physique qui serait effectuée par un autre humain ou non humain. Ainsi, les architectes sont-ils allés puiser dans des formes historiques, telles les cellules des monastères médiévaux, pour découper l'espace des bibliothèques d'aujourd'hui. La salle de lecture ouverte, immense, lumineuse, qui fut longtemps la norme de l'espace des bibliothèques, a désormais disparu. Et d'ailleurs, la médiathèque de Caen, construite au milieu des années 2010 par l'architecte Rem Koolhaas, qui est longtemps apparue comme le vestige d'une vieille conception du savoir et de sa consultation, avant donc d'être emportée en 2051 par une crue de la Seine et de s'échouer sur les côtes anglaises. Donc les inconvénients de ce type d'espace très morcelé, et notamment le problème de l'acheminement des documents, que ceci soit numérique ou physique, sont largement compensés par les très nombreux robots qui opèrent, évidemment. Bien sûr, il y a eu des résistances de la part de ceux qui trouvaient triste que les bibliothèques soient devenues des boîtes noires opaques, surtout que les autres bâtiments qui ont connu la même évolution pendant la même période, et pour des raisons évidentes de préservation de la vie privée, sont les commissariats, les centres des impôts et les clubs de fitness. Et même les tribunaux aujourd'hui sont translucides afin que tout le monde puisse voir en se promenant dans la rue celui qui se fait juger. Donc je reviens au règlement proprement dit. Donc nous sommes toujours au point 1, il y en a 8. Mais comme Philippe Charrier a parlé 4 fois plus, moi je pense que je peux parler 4 heures. Donc 1, consultation sur place. B, pour emprunter, l'usager doit être inscrit. Certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place. Ils font alors l'objet d'une signalisation particulière. Il s'agit là de certains documents originaux ou très fragiles, des livres-objets, des CD ou compact disques, des DVD, et même certains livres-fichiers codés dans de vieux langages de programmation qui pourraient être altérés au contact de machines contemporaines. Alors, donc je refais une parenthèse ici. Pour expliquer que les bibliothèques donc possèdent toutes sortes de supports à disposition, beaucoup de livres-fichiers, qui sont autrement désignés sous le vocable « livres non-papier », évidemment, qui se sont imposés progressivement comme le support majoritaire de lecture, consultables sous toute forme de machine, avec écran ou sans écran, les bibliothèques proposant en général divers supports de consultation. Donc les livres-fichiers ont beaucoup, beaucoup progressé dans leur capacité à proposer les mêmes avantages que le livre-objet, qui est lui-même désigné sous le vocable livre-papier. Un grand travail a été mené pour octroyer aux livres-fichiers les mêmes avantages que le livre-objet en termes de mémorisation, de confort, un travail qui a fini par être récompensé par le public. Il y a d'autres raisons à la progression du livre-fichier, mais j'y reviendrai. Néanmoins, le livre-objet ou le livre-papier demeure présent en masse dans les bibliothèques. Les raisons sont multiples, on le verra dans une prochaine parenthèse, ne vous inquiétez pas. Mais la principale est une raison tout à fait légale. Tout livre-fichier présent dans la bibliothèque doit avoir un équivalent objet dans cette même bibliothèque, au moins pour les établissements de rang régional ou sous-régional, hein, pas plus bas. Alors, du coup, ça induit une autre parenthèse. Cette obligation légale a donné lieu à un phénomène tout à fait intéressant. C'est-à-dire, à mesure que les livres fichiers se sont améliorés, ils ont offert d'autres possibilités d'écriture que le livre papier, et notamment en termes de mise à jour. Bon, ça n'est qu'un aspect parmi d'autres dans ce que ça a permis du point de vue de l'écriture, mais qui intéresse plus particulièrement les bibliothèques. La mise à jour à distance d'un livre fichier lui donne des avantages immenses pour tous les textes scientifiques, mais aussi pour certains textes de fiction, notamment les textes d'anticipation, qui peuvent ainsi être mis à jour à mesure que le futur prédit se réalise ou pas. Le problème est donc de transcrire ces avantages dans le livre-objet. On n'a pas trouvé d'autres possibilités pour se conformer donc à l'obligation légale, hein, qui veut que tout livre-fichier ait son équivalent livre-objet, que de produire un exemplaire livre-objet pour chaque nouvelle mise à jour d'un livre-fichier. Le problème qui se posa alors est un problème de place. Certains livres-fichiers traitant de sujets particulièrement brûlants, faisant l'objet de plusieurs centaines de mises à jour par an. Mais ce problème de place fut réglé rapidement quand l'interdiction totale de la voiture individuelle dans les villes fut effective en 2030, libérant ainsi l'espace occupé auparavant par les boulevards périphériques et autres rocades saignant les cités. Ainsi, il fut décidé que des pans entiers de ces espaces seraient consacrés à l'accueil des livres-objets. On peut dire qu'aujourd'hui, la plupart des villes d'Europe sont donc littéralement entourées de livres-objets, ce qui est une nouveauté historique. Bien sûr, ceci ne suit pas sans heurts, notamment du fait de la pression immobilière qui a terriblement augmenté dans les villes d'Europe ces dernières décennies, certains considérant que le périphérique et autres rocades auraient dû être prioritairement habitées, mais il était difficile d'argumenter contre le savoir, et donc l'association du DAL, droit au logement, a dû s'incliner face à l'ONG interrégionale DAL, droit au livre. Alors, je suis toujours dans le petit 1, donc consultation sur place, petit C. En cas de consultation d'un livre-objet non présent physiquement dans la bibliothèque, mais nécessitant un acheminement depuis un établissement du réseau européen, évidemment il y a un réseau européen super dense, il sera demandé une participation à cet acheminement en proportion à la distance et au véhicule choisi par l'usager. Pour un acheminement en drone standard, la participation demandée à l'emprunteur sera de 10 nouveaux euros ou 10 minutes d'attention. Pour un acheminement en drone rapide, c'est 20 nouveaux euros ou 20 minutes d'attention. Pour un acheminement en drone express, c'est 100 nouveaux euros ou 1 heure d'attention. Les établissements du réseau des bibliothèques des régions unies d'Europe se réservant le droit, évidemment, mais bon, ça va de soi, de modifier le coût en minutes d'attention selon le cours de l'attention en respect de l'indice européen d'attention. C'est normal. Alors, je me permets juste une petite parenthèse ici, parce que pour préciser qu'avec le drone express, et ceci même pour la distance qui joint les établissements les plus éloignés du réseau, donc par exemple Algarve et Transnistrie, le livre-objet ne met jamais plus de 30 minutes à être acheminé. Hein. Quant à la participation sous forme d'attention, elle s'explique par le fait que l'attention est devenue depuis 2030 un bien marchandisable, selon des critères dont je vous passe les détails parce qu'ils sont ultra complexes. Chacun est doté d'un capital personnel d'attention, ou CPA. Ce capital dépend par exemple de votre situation sociale, de votre âge, de votre irréputation. Il est en constante évolution, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, sa caractéristique la plus intéressante, c'est de ne pas être transmissible à ses héritiers. Ce qui fait que les gens sont incités à le dépenser au cours de leur vie. On estime que l'instauration de ce capital personnel d'attention, ou CPA, bien que ne résolvant aucun problème d'inégalité entre les humains, a profondément modifié la notion de richesse. Mais bon, c'est une question qui dépasse un peu le cadre de ma communication d'aujourd'hui. Donc j'y reviendrai si vous voulez. On passe au petit 2. Consultation à distance. A. Tout document accessible dans la bibliothèque est consultable aussi à distance, sous forme hologrammique qui en reproduit toutes les qualités, y compris l'odeur. Alors, je tiens à préciser ici que l'hologrammique est, de manière moins prévisible que la robotique et l'intelligence artificielle, le grand bond technologique de ces dernières décennies. La possibilité de faire apparaître à distance, alors quand je dis à distance, c'est aussi bien dans le temps et dans l'espace, un objet ou un être vivant avec une précision qui les rend presque présents a bouleversé bien des aspects de notre vie quotidienne. On peut voir, entendre, sentir quelqu'un ou quelque chose alors qu'ils ne sont pas présents physiquement. Le sens qui demeure absent est le toucher. Alors on a remarqué que dans certains espaces de nos existences, cela posait guère de problèmes. Par exemple, beaucoup de couples dans toute l'Europe ont opté pour l'amour hologrammique qui permet de vivre en couple mais à distance. La sexualité en étant à peine altérée, cette évolution ayant été largement préparée par des années de sexto et de jeux sexuels par webcam interposés. Mais on a remarqué que pour le livre-objet, et même si on peut tourner la page de son hologramme grâce à un système de rétroaction très très fin, le contact de l'objet physique reste en certains cas apprécié, notamment chez la population la plus âgée des usagers. Donc on est toujours à consultation à distance. Petit B. L'accès et la consultation à distance des documents sont ouverts à tous, gratuitement et ne nécessitant pas d'inscription. L'exception d'anonymat valable pour la fréquentation physique des bibliothèques ne fonctionne pas pour la fréquentation à distance. Ça, c'est très important. Je voudrais la préciser, que cela signifie donc que les données de fréquentation à distance sont enregistrées. Alors, cet écart, cette différence fondamentale entre fréquentation physique et fréquentation à distance des documents a fait l'objet de disputes extrêmement violentes au sein même des personnels des bibliothèques d'Europe. Il y a eu plusieurs morts, dont une dizaine à la BPI, encore. Les uns, considérant que la consultation et l'accès à distance devaient obéir exactement aux mêmes règles que la consultation et l'accès sur place, les autres craignant que les bibliothèques ne soient plus nécessaires en tant que lieu physique si elles n'offraient pas quelques avantages en plus autre que le toucher direct du document. La dispute, très très violente encore, je vous le rappelle, fut tranchée par l'enregistrement des données de fréquentation à distance et pour des raisons très très pragmatiques que je vais vous donner. D'abord, à partir du moment où la fréquentation à distance nécessite pour la projection hologrammique des outils techniques personnalisés, lunettes, vêtements, puces sous-cutanées, dents connectées ou implants cérébraux, il est très difficile de garantir l'anonymat d'un usager à distance des bibliothèques. Bon. Ensuite, les outils de projection hologrammique s'étant multipliés à cause de leur coût de plus en plus bas et de leur consommation énergétique presque négligeable, il fallait éviter qu'un même usager ne consulte à distance trop de documents et pendant trop longtemps, ce qui pouvait laisser craindre une activité délictueuse, comme par exemple la bibliothèque clandestine, c'est-à-dire une bibliothèque qui ne contient pas de documents physiques mais qui offre les mêmes conditions de consultation et d'accès que les bibliothèques physiques, à savoir l'anonymat. Ensuite, depuis la réduction drastique des financements publics des bibliothèques, qui a été entamée en 2021, quand l'État français avait encore un budget national de la culture, donc cette diminution drastique a nécessité pour les bibliothèques de trouver des modes de financement propres. La vente des données de fréquentation à distance a fourni une source de revenus substantiels. Savoir ce que les gens lisent, cherchent, regardent, annotent, eh bien, ça intéresse des types très variés d'entreprises qui cherchent des données qualitatives afin principalement de nourrir les intelligences artificielles de rang supérieur, donc je parle là des intelligences artificielles qui enseignent à l'université. Bien sûr, cette braderie des données personnelles a provoqué un dilemme moral, même chez les bibliothécaires les plus soucieux de préservation de la bibliothèque en tant que lieu physique, mais tout le monde se tait devant les bénéfices que rapporte cette marchandisation aux bibliothèques, bravo, super. Voire certains favorisent carrément des pratiques illégales. Un réseau clandestin fait par exemple circuler des programmes anonymisants pour la consultation à distance de livres-objets sous forme hologrammique et on soupçonne qu'il est composé de quelques professionnels des bibliothèques, mais aucune preuve n'a pu être établie. Petit 3, inscription à titre individuel. A. Pour s'inscrire afin de pouvoir emprunter, l'usager n'est tenu de présenter aucun autre document officiel que lui-même. Il sera immédiatement identifié et enregistré au fichier européen des emprunteurs de bibliothèques. La CNIL nécessite d'informer que ce fichier est ensuite versé au métafichier mondial des individus humains. Petit b, l'usager mineur doit présenter obligatoirement une autorisation des parents. Bon. Petit c, l'usager robot dépendant doit présenter obligatoirement une autorisation de ses propriétaires. Petit c, l'usager robot autonome doit présenter un certificat d'identification du constructeur. Petit e, l'usager animal doit présenter un certificat de propreté. Alors, ça peut paraître bizarre, mais je précise ici que, suite à une lutte acharnée, encore une fois, il y a eu beaucoup de luttes acharnées au cours de ces dernières décennies, les antispécistes ont obtenu, début 2030, la fin de la discrimination envers les animaux, et donc l'extension de tous les droits humains aux animaux. De ce fait, les animaux ne pouvaient plus être privés du droit de s'inscrire en bibliothèque. Néanmoins, les bibliothécaires ont obtenu de hautes luttes, encore une fois, la nécessité de présenter un certificat de propreté. Il s'agit d'un pur symbole parce que dans les faits, aucun animal seul ne s'est encore présenté dans une bibliothèque des régions unies d'Europe pour demander une carte d'emprunteur. Petit f, donc inscription à titre individuel, petit f. Un numéro d'emprunteur sera alors affecté à l'usager lors de sa première inscription valable pour un an. Depuis l'obligation faite à tous les êtres vivants, humains ou non humains, d'être pucés, les changements de domicile n'ont pas besoin d'être signalés. Les bibliothèques étant autorisées en cas de non-retour d'un document au délai fixé, de faire une demande de localisation au fichier européen de localisation des vivants. On en arrive au 4, prêt à domicile. A. Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l'emprunteur. Dans le cas des robots autonomes, la responsabilité incombe évidemment au constructeur. Petit b, le nombre de documents empruntables par support et la durée des prêts sont précisés lors de l'inscription et figurent en annexe de ce règlement. Alors, je fais encore une parenthèse juste pour vous préciser que je ne ferai pas la lecture des annexes de ce règlement. La lecture d'un règlement, c'est déjà une expérience pénible. Alors, la lecture des annexes, c'est à peine supportable, surtout après un déjeuner, je le répète. Et d'ailleurs, je vous trouve particulièrement vif. Vous avez dû mal manger. Néanmoins, si vraiment cela vous intéresse, je tiens à votre disposition le nombre de documents empruntables par support et la durée des prêts pour chacune des bibliothèques régionales ou sur-régionales des régions, mais ça je le donnerai. Petit c, en cas de retard dans la restitution d'un document emprunté, la bibliothèque se réserve le droit de prendre toute disposition pour assurer le retour des dits documents. Rappel écrit ou par puce sous-cutanée aussi, envoi d'un robot chargé de la récupération des documents, amende dont le montant est fixé par arrêté régional, voire suspension du droit de prêt. Petit d, en cas de perte ou de détérioration d'un document, l'emprunteur doit assurer son remplacement ou le remboursement de sa valeur, remboursement qui peut être effectué soit en nouveaux euros, soit en heures d'attention. Alors, encore une petite parenthèse. Alors, on pourrait s'étonner, c'est vrai, comme ça, à première vue, que l'emprunt de livre-objet ait perduré malgré des formats de consultation beaucoup moins encombrants. Alors, ceci est explicable par le goût pour l'objet, je l'ai déjà mentionné, mais surtout par le fait que le livre-objet a complètement disparu des foyers. L'augmentation de la population humaine, assortie à la nécessité d'espace pour la population robotique, a provoqué une hausse massive des prix du mètre carré dans toutes les régions unies d'Europe et une baisse conséquente de la surface d'habitat. La plupart des meubles bibliothèques ont été convertis en lits verticaux. Néanmoins, le livre-objet demeure prisé dans certaines circonstances qui rendent nécessaire son existence. Ce qui est assez intéressant, qui a été remarqué ces derniers temps, c'est que les robots de toute catégorie, bien qu'ayant beaucoup d'autres moyens d'accéder au contenu, considèrent le livre-objet comme un attribut historique de l'humain et l'arborent souvent comme la preuve de leur bonne volonté de s'approcher au plus près de l'humanité. Quant aux humains, les raisons de l'emprunt sont diverses. Les plus âgés d'entre eux donc, avancent le rapport affectif à l'objet, j'en ai déjà parlé. Certains même ont gardé des livres-objets chez eux et expliquent ne pas pouvoir lire sur d'autres formats, y compris l'hologramme. Chez les plus jeunes, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on remarque des emprunts de livres-objets liés à des circonstances sociales particulières. Dans le cas des réceptions à domicile, par exemple, type un dîner, il n'est pas rare que des jeunes humains convertissent temporairement leur lit vertical en bibliothèque et la garnissent de livres-objets empruntés pour des raisons esthétiques. Juste une autre parenthèse pour préciser que, qu'étant en théorie autorisé à emprunter des documents, les animaux se montrent assez peu friands de cette pratique. Ont été recensés quelques cas d'emprunts animaux. Par exemple, un faucon s'est envolé avec un livre sur les lapins. Et une taupe a essayé de traîner derrière elle la terre vue du ciel. Mais aucun n'était en mesure de certifier son inscription dans la bibliothèque. On a donc envoyé des robots récupérateurs de documents à leur recherche, mais sans succès. Grand 5, inscription à titre collectif. A. Un numéro d'emprunteur est attribué à un responsable désigné par sa collectivité. Depuis l'instauration à l'échelle européenne de la norme dite démocratie participative à tout niveau, c'est une norme très importante, il sera exigé de la part du responsable qu'il prouve la régularité de sa désignation. Alors, pour les groupes animaliers, et face à l'impossibilité d'apporter une preuve de la désignation du responsable par la collectivité, sera appliquée la règle dite des chevaux de Namibie. Alors, il faut que j'explique la règle des chevaux de Namibie. Grâce au progrès des recherches en éthologie, on a remarqué que les groupes de chevaux de Namibie suivaient un processus de décision qui s'apparentait au vote. Ces chevaux, donc, apportés par les Prussiens lors de la colonisation il y a 2 siècles à peu près, et abandonnés au départ des Prussiens, donc, sont, pour certains d'entre eux, retournés à l'état sauvage et ont formé des troupeaux. On a remarqué que dans ces troupeaux, les décisions étaient prises selon un processus de rassemblement de la masse, pas de la majorité, autour d'une proposition qui n'était pas forcément celle du leader sexuel de la troupe, ni des chevaux les plus bagarreurs. En d'autres termes, une réunion de chevaux craintifs peut emporter l'adhésion contre la volonté du mâle dominant. C'est vrai, hein ? En l'absence d'observations contradictoires, tout groupe animal est supposé fonctionner de la sorte. D'où la règle appliquée dans les bibliothèques. Donc, tout animal se présentant peut se voir attribuer un numéro d'emprunteur en tant que représentant supposé d'un collectif animalier. Ben, donc il a noté cependant que le cas est purement théorique. Aucun animal n'ayant jusqu'à aujourd'hui formulé une demande de volonté, une volonté de demande de numéro d'emprunteur, je l'ai déjà dit, mais c'est formel, un règlement. Petit b, donc on en est inscription à titre administratif, petit b. Les conditions d'inscription à titre administratif sont identiques à celles exigées pour l'inscription individuelle. Petit c. Peuvent s'inscrire au titre de collectivité et surjustificatif. Les établissements scolaires pour jeunes humains. Les établissements de formation des intelligences artificielles. Les établissements de santé pour humains. Les centres de réparation et de reformatage pour robots toutes catégories. Les maisons de retraite pour robots dépendants et robots autonomes. Je fais juste une parenthèse ici pour préciser que les maisons de retraite pour humains n'existent plus depuis donc l'abolition de la retraite sur l'ensemble du territoire européen et qu'elles ont été toutes remplacées par des centres de soins palliatifs. D. Peuvent s'inscrire au titre de collectivité et sur justificatif les clubs du 3e âge, les clubs du 4e âge, les clubs du 5e âge, les clubs du 6e âge. Néanmoins, les clubs du 6e âge n'ont pas le droit d'emprunter des livres objets, trop de documents ayant été restitués enduits de bave. C, droit attaché aux documents. Chaque bibliothèque respecte la législation en vigueur sur la reproduction des documents et celle relative aux droits d'auteur. Aussi, elle dégage sa responsabilité de toute infraction à la règle suivante, que je cite. Les lectures, consultations, auditions, visionnements de documents sont exclusivement réservés à un usage personnel dans le cadre familial ou privé, cercle de famille. Alors évidemment ici, bon, il faut faire bien attention à donner aux mots le sens qu'ils ont en 2057. Ainsi, la notion de famille. Elle a connu ces dernières décennies une extension de ses contours. La famille désignant évidemment les parents de sang, mais aussi les parents par alliance, beaux-parents, enfants des beaux-parents, petits-enfants des beaux-parents, mais aussi tous les parents de sang des beaux-parents ainsi que des demi-frères et des demi-sœurs. Ce à quoi il faut ajouter les parents de sang des vrais concepteurs dans le cas des PMA, procréation médicalement assistée, et des GPA, gestation pour autrui. Alors ainsi, prenons le cas d'un enfant conçu en GPA. Issu par exemple d'une femme qui a déjà eu 3 enfants avec 3 hommes différents, ayant eux-mêmes eu 3 enfants avec 3 femmes différentes, et qui se voit élever cet enfant par un couple d'hommes, ayant chacun eu déjà 3 enfants avec 3 hommes différents conçus par GPA, ces 2 hommes ayant eu eux-mêmes des frères et sœurs issus de parents divorcés et remariés, avec des gens ayant eu eux-mêmes des enfants avec d'autres partenaires, un tel enfant aurait donc un cercle familial comptant approximativement 1500 personnes. Ce constat a été pris en considération par les militants en tripropriété intellectuelle, qui ont fini par comprendre que plutôt que de lutter contre les lobbies d'auteurs très organisés et qui ont recours à des arguments super forts du genre « c'est dur la vie des auteurs », etc., il fallait mieux travailler à l'extension de la notion de famille et rendre ainsi presque impossible aux autorités chargées de faire respecter les droits d'auteur de prouver que la personne à qui on prêtait ou faisait visionner un document n'était pas un membre de la famille. Ainsi, la complexité croissante des arbres généalogiques mit-elle fin de manière presque naturelle à la propriété intellectuelle. celle-ci devenant un simple principe formel. 7. Comportement des usagers. A. Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l'intérieur des locaux afin de respecter la tranquillité et le travail d'autrui. Petit B. Les lecteurs sont invités à respecter le calme lors de la consultation à distance. Alors, ça c'est important parce que, comme on l'a dit plus haut, la consultation à distance donc, fait l'objet d'un enregistrement de données multiples, dont celle, bien évidemment, des conditions mêmes de la consultation et du comportement de l'usager à distance. Les bibliothécaires savent donc dans quelles conditions sont consultés les documents à distance. Ils ont réussi à imposer cette règle du calme dans la consultation à distance sur un prétexte de non-discrimination. Le discours est à peu près le suivant. Il n'y a pas de raison que les usagers à distance ne bénéficient pas, à partir du moment où il est possible de les garantir, de conditions aussi bonnes que les usagers sur place. En fait, évidemment, derrière ce prétexte de non-discrimination se cachait une vision de la lecture presque romantique, comme une rencontre quasi religieuse entre le document et celui qu'il consulte. Outre que cela ne tient pas compte que la moitié des usagers de la consultation à distance... Outre que cela ne tient pas compte du plaisir intense qu'il peut y avoir à lire ou consulter un document dans le bruit et l'agitation, cela ne tient pas compte que la moitié des usagers de la consultation à distance, comme de la consultation sur place d'ailleurs, selon les statistiques de fréquentation, sont des robots qui n'en ont rien à faire de l'agitation et du bruit. Petit C, il est interdit de fumer, de manger, d'utiliser un téléphone portable dans les locaux de la bibliothèque, sauf animation expressément organisée par les bibliothécaires. La puce sous-cutanée est autorisée, mais pour toute activité ne requérant pas d'échange à haute voix avec elle. Alors, évidemment, on a le droit donc, d'utiliser sa puce sous-cutanée pour toute activité non bruyante, pour échanger par la pensée, faire des enregistrements dans la mémoire extensive et tout ça. Mais juste, je fais ici une parenthèse pour préciser que la mention des téléphones portables dans ce paragraphe peut passer pour une étrangeté. Ceci ayant été remplacé par la puce sous-cutanée donc au milieu des années 2030 et ceci de manière très massive, mais sans doute c'est l'effet d'un copier-coller avec une version très très ancienne de ce règlement. Petit D, les enfants sont dans les locaux sous la responsabilité de leurs parents. Le personnel de la bibliothèque les accueille, les conseille, mais ne peut en aucun cas les garder. Petit E, les robots... Alors ça c'est marrant que vous rigoliez parce que c'est vraiment un copier-coller d'un règlement de bibliothèque intérieur. Les robots dépendants sont dans les locaux sous la responsabilité de leurs propriétaires. Le personnel de la bibliothèque les accueille, les conseille, mais ne peut en aucun cas les garder. Il est interdit, ça c'est petit F, il est interdit de frapper ou de s'adresser de manière désobligeante au personnel non humain des bibliothèques. Alors, donc je fais encore une parenthèse pour préciser que suite au recours massif à un personnel non humain pour s'occuper des bibliothèques, il a été possible de les ouvrir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les robots étant moins regardants sur les conditions de travail et la nécessité d'avoir une vie de famille. L'élargissement des horaires d'ouverture fut rendu nécessaire par la diminution du temps de sommeil chez l'humain, qui est passé à 4h30 par adulte en moyenne, par l'augmentation aussi du temps de travail, le temps légal de travail étant passé à 47 heures par semaine, ainsi que par la réduction des jours de vacances et la fin des jours chômés. Pour le dire autrement, c'est parce que les gens dorment peu et travaillent tout le temps que les bibliothèques ont été ouvertes massivement. Néanmoins, à certaines heures de la nuit, les robots sont seuls en charge des publics. Or, comme on le sait, l'attitude des lecteurs humains vis-à-vis du personnel robot n'est pas toujours très civile et aboutit à des actes parfois répréhensibles. À ce jour, d'ailleurs, il s'agit de l'un des points les plus compliqués, les plus noirs dans la vie quotidienne des bibliothèques. Éviter que les usagers humains s'adressent mal au personnel robot, mais aussi veiller à ce que le personnel humain traite les usagers robots avec la même bienveillance qu'il traite les usagers humains. C'est une question essentielle à laquelle les chargés de public dans tous les établissements d'Europe s'attellent. Parce que les bibliothèques refusent absolument d'être le lieu d'une expérience communautariste qui verrait les usagers humains n'avoir recours qu'aux bibliothécaires humains et les robots usagers n'avoir recours qu'au personnel robot. Ce communautarisme est devenu un fléau social partout ailleurs, mais les bibliothèques ont lancé nombre d'initiatives sympathiques visant à promouvoir la mixité. Ainsi, l'opération Un livre, un pétaoctet, qui vise à provoquer des échanges informels et chaleureux entre usagers robots et usagers humains. Petit G, donc c'est toujours le comportement en bibliothèque. Le temps de consultation en salle de lecture immersive est limité à 2 heures par jour et par usager. Alors, les salles de lecture immersive, elles sont apparues à la fin des années 2020. Alors, il s'agit de pièces qui permettent au lecteur une immersion multisensorielle dans le document, qu'il soit au départ textuel, visuel, sonore ou odorant même. La lecture immersive ne répond pas à un principe d'adaptation. Il ne s'agit pas de faire un film à partir d'un livre ou d'illustrer de la musique avec un odorama, mais il obéit à un principe d'équivalent sensoriel à partir d'un système synesthésique algorithmisé. On s'est aperçu par exemple que les textes de Gilles Deleuze étaient beaucoup plus facilement compréhensibles quand ils étaient lus dans une odeur de cigarette, avec la sensation d'un chat qui régulièrement frôle le mollet. On a remarqué que la scansion du frôlement du mollet par le chat était essentielle à la compréhension de la rythmique du texte. On s'est aperçu par exemple que la prix Nobel de littérature 2024, Christine Angot, était autrement appréhendable quand elle était lue dans un état profond de colère qu'on peut artificiellement provoquer. Ainsi, les salles de lecture immersives reproduisent-elles des états ou produisent-elles des états adaptés dans le but de saisir le sens profond du document ? Ce système de lecture a fait, encore une fois, l'objet de controverses théoriques longues et acharnées, les uns avançant qu'elles réduisaient le libre arbitre du lecteur, qui se trouve comme captif du document. Les autres, qui ont donc fini par l'emporter, avançaient que de toute façon, le libre arbitre du lecteur était un leurre, ainsi que le libre arbitre en général, de toute façon. Et que ces salles de lecture immersives étaient un moyen d'attirer de nouveaux publics qui avaient besoin d'être plus accompagnés dans l'expérience du document. Quant à la limitation à 2 heures par jour et par usager, elle fait suite à l'observation qu'au-delà de 2 heures, les usagers donc, étaient pris de vomissements, de maux de tête ou de vertiges. 8. Application du règlement. A. Tout usager s'engage à se conformer au présent règlement, y compris les animaux, évidemment. Petit B. Des infractions graves ou négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire ou définitive du droit de prêt, de l'accès à la bibliothèque, voire de la consultation à distance. Petit c, le personnel de la bibliothèque est chargé de l'application du présent règlement, dont un exemplaire est remis à l'usager lors de son inscription, un deuxième exemplaire étant affiché en permanence dans les locaux, et un troisième étant chargé dans les puces sous-cutanées de tout être humain inscrit et dans les mémoires de toute catégorie de robots. Vous voyez donc, finalement, que pas grand-chose n'a changé. Et d'ailleurs, si vous avez quelques questions, je me tiens à votre disposition pour faire des parenthèses supplémentaires et vous éclairer sur des points de détail. Merci beaucoup de votre attention.
Christine a une question.
C'était une blague, les questions.
Non, ça ne va pas être une blague. Plusieurs fois dans votre intervention, vous nous parlez de 2030 ou la fin de 2020. Qu'est-ce qui se passe en 2030
Je ne sais pas. Je suis fatiguée. Non, je ne sais pas. C'est trop compliqué. Enfin, je ne peux pas résumer comme ça 20 ans d'histoire. Non, mais j'ai déjà essayé d'expliquer super clairement l'établissement des régions unies d'Europe, ce qui n'est pas facile, parce que c'est quand même plein de mouvements régionaux qui sont vraiment, qui ont des histoires vraiment très particulières. C'est pas pareil, la Catalogne, la Corse, la Transnistrie, la Moldavie, par exemple, qui a une histoire très très folle. Mais voilà, donc après, résumé, disons qu'en 2030, c'est quand même c'est une rupture, c'est-à-dire que c'est le début vraiment de la démocratie participative régionalisée, qui est un système vachement compliqué, qui aboutit à une sorte, vous l'avez remarqué, c'est un peu un sous-texte, mais parce que je voulais pas vraiment approfondir la question institutionnelle, mais qui aboutit à un truc qui est très bizarre, parce que c'est un mix entre une démocratie participative très très affirmée et un autoritarisme administratif effrayant. C'est pas du tout ce qu'on vit. C'est très compliqué à comprendre. Et ça, c'est 2030.
Il y a d'autres questions ?
Ah non.
Aïe, aïe, aïe.
Oui, je voulais pas faire une pause ?
Non, peut-être juste après, je ne sais pas. Non, je voulais juste signaler, il y a un manque dans votre règlement, vous ne parlez pas des enfants clonés.
Je ne parle pas d'eux ?
Les enfants clonés.
Oui, parce qu'ils ont les mêmes droits que les enfants non clonés. D'accord. C'est bizarre parce que vous supposez une discrimination que je trouve un peu tendancieuse.
Je trouvais que c'était discriminatoire.
Madame, vous êtes de droite. Je suis désolé de vous le dire. Je ne savais pas qu'il y avait des bibliothécaires de droite.
Ça existe. Si.
Je trouve ça bizarre qu'on en soit encore là, d'ailleurs, à se poser des questions comme ça, cloné, pas cloné.
C'était pas très clair quand même dans votre présentation.
Comment ?
Ce n'était pas très clair.
Oui, pardon, c'est vrai. Enfin, ça me semblait évident, je suis désolé.
D'autres questions ?
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Là-haut.
Merci.
Vous avez assez peu évoqué dans votre intervention l'évolution de la lecture, de ce que ça représente en capacité d'immersion dans l'imaginaire, et puis le rapport avec les auteurs aussi. Vous n'en avez pas beaucoup parlé. Comment la bibliothèque gère ça ?
J'ai pas entendu votre question, mais comme il est 58, je propose que vous fassiez une petite pause. En fait, il y a 9 pitchs derrière, vous savez, donc j'imagine que quelqu'un en a parlé, non ? Ou ça vous est pas... Non ? Thierry, Oscar, vous n'avez pas... Non ? Alors... Donc il y avait la relation avec les auteurs.
On va te laisser 3/4 d'heure pour répondre.
Pardon ?
3/4 d'heure pour répondre.
Ouais, c'est... Donc il y avait la relation avec les auteurs et la deuxième, c'était ? Ah ouais. Et vous trouvez ça vraiment important dans le cadre d'une réflexion sur les bibliothèques ? Ah, je sais pas, moi ça me semble ultra secondaire. Je suis désolé, là, vraiment, ça...
Une autre question.
Je sais pas, je viens peut-être à votre secours. Ça doit pas trop apparaître dans le règlement, ça.
Ah oui, vous avez... Mais exactement, madame.
Voilà. Voilà.
Mais c'est vrai, pourquoi ? C'est super totalitaire, votre truc. Vous aussi, vous êtes de droite, en fait. Pourquoi vous voulez qu'on réglemente les pratiques de lecture et tout ça ? Ça va pas ? C'est fou. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'aux questions, les gens, finalement, se révèlent. Ça paraît anodin, comme ça, mais... En fait, vous voudriez réglementer tout, quoi.
Encore une question. Et là, je crains le pire.
Ah.
Alors moi, en fait, évidemment, dans toutes les conférences, même en 2057, il faut qu'il y ait un casse-couille qui ramène sa science, etc.
Et qu'il ne soit
pas là
vidéo.
Du tout. Pour... Non, je ne suis même pas là pour poser des questions, okay. Tout ça. Je vais juste... Je voudrais corriger une partie de votre intervention. Vous avez dit que la diminution des budgets de la culture avait commencé en 2020. Or, il est évidemment... le savoir commun, c'est que ça a commencé... Particulièrement, les budgets des bibliothèques sont datés, évidemment, à la diminution du budget de la bibliothèque d'Alexandrie, qui est le début de la diminution des budgets bibliothécaires. Et c'est quelque chose que tous les historiens savent, évidemment.
C'est bien.
Merci pour cette précision. Merci Xavier. Merci Xavier. Je vais appeler maintenant, nous allons donc passer au pitch, au 9 pitch, et je vais appeler les 3 premiers pitchers. Donc Thierry Crouzet, Elena Darui et Malik Diallo.
Pour l'instant, je vais vous renvoyer dans la salle et je vous appellerai après.
Alors, je vais faire une brève présentation de chacun d'entre vous. Ensuite, vous repartirez dans la salle et je donnerai la parole à Thierry. Donc, Thierry Crouzet, qui se présente comme écrivain, essayiste, blogueur. Il est effectivement... romancier également, son dernier roman s'intitule « Résistant ». Et il a notamment publié, alors j'ai pas la date, mais c'est tout récent, « J'ai débranché ».
Ça c'est 2012.
Ouais. C'est-à-dire « Comment revivre sans Internet après une overdose ». Donc je pense que c'est assez dans nos thématiques. Et également un texte qui s'appelle « La mécanique du texte » et qui aborde, je pense, le geste qui sauve et qui a été traduit en plus d'une quinzaine de langues. Il a été développeur, journaliste. Il a créé, quelques temps plus tard, les revues PC Expert et PC Direct. Il est, en parallèle, donc, il écrit des romans, des essais et des carnets de voyage également, pas toujours publiés, mais peu importe. Il s'est initié à l'histoire de l'art et à la philosophie et, du coup, finalement, se revendique comme expert de rien et revendique cet éclectisme. Donc, tu passeras en premier. Ensuite, Elena Darui, qui est directrice du réseau des bibliothèques, des médiathèques pardon, de Créteil, qui vous avez étudié l'analyse des politiques publiques. Vous avez été également directrice des médiathèques de Châtenay-Malabry. Et vous avez également suivi la lab session de l'Institut des futurs souhaitables. Donc vous avez été formée à l'exploration du futur. Donc on vous attend de pied ferme.